Merci Anaël pour ta prière. Comme Charlie le faisait remarquer en début de culte, je suis aussi content qu'on soit quelques-uns ce matin. Sinon, j'aurais eu juste Manu, mon épouse, comme auditoire. Pas qu'elle soit un mauvais auditoire, loin de là, mais c'est quand même plus sympa quand on est un peu plus nombreux. Je peux afficher le... Connaissez-vous ce jeu ? Peut-être certains d'entre vous ont déjà la musique qui leur trotte dans la tête. J'espère que ça ne va pas tenir tout le culte. Question pour un champion. Vous avez peut-être déjà regardé ce jeu. Ça a bercé d'une certaine façon mon enfance et mon adolescence parce que j'ai une maman qui regardait beaucoup ce jeu. Voilà, beaucoup de questions, beaucoup de choses comme ça. C'est un des jeux télévisés les plus populaires de France. Et ce jeu, peut-être vous ne le savez pas, a fêté ses 25 ans. Et en 25 ans, plus de 6300 émissions ont été tournées. Ça vous prendrait plus de 131 jours non-stop pour voir toutes ces émissions. Des fois, vous avez un défi à vous lancer. Voilà une proposition. En 25 ans, c'est plus de 300 000 candidats qui ont participé. Il y a des candidats par ici, non ? 300 000 et qui ont essayé de répondre, tenez-vous bien, à 821 000 questions. Alors, pourquoi je vous parle de ce jeu ? Parce que dans la Bible, il y a un livre dont on pourrait donner le titre suivant, « Question pour un champion ». C'est un livre de la Bible où on trouve une église qui pose plusieurs questions à un champion. Et ce champion, c'est l'apôtre Paul. Nous sommes en 56 après Jésus-Christ. Paul, qui est à Éphèse à ce moment-là, depuis quelques mois, reçoit une lettre donc de la part de cette église qu'il a fondée 5 ans auparavant et lui expose plusieurs questions et problèmes dans sa vie d'église. Paul prend alors sa plume pour leur répondre et cela nous permet 2000 ans plus tard de voir ses réponses à ces questions qu'il a écrites dans sa lettre. Est-ce que quelques-uns l'ont trouvé ? Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens, tout à fait. La deuxième partie de cette lettre aux Corinthiens est justement uniquement tournée vers ces réponses qui sont données à l'église de Corinthe qui a envoyé ce message via quelques émissaires, pour avoir des réponses à leurs questions. Plusieurs questions sont posées, par rapport au mariage et au célibat, 1 Corinthiens 7, au rôle de la femme et de l'homme, 1 Corinthiens 11, à la manière de célébrer la scène, 1 Corinthiens 11, Anaël en a lu un passage, aux pratiques des dons spirituels, 1 Corinthiens 12 à 14, à la résurrection de Christ, 1 Corinthiens 15, et aussi à l'entraide entre chrétiens à travers la collecte qui devait être faite pour les chrétiens de Jérusalem, 1 Corinthiens 16. Et au milieu de toutes ces questions, on en trouve une qui peut sembler au premier abord relativement étrange et même pas forcément très importante. Cette question, la voilà. Peut-on manger de la viande sacrifiée à des idoles ? Peut-on manger de la viande sacrifiée à des idoles ? Et pourtant, c'est à cette question-là que Paul va prendre le plus de temps pour répondre. 3 chapitres, de 1 Corinthiens 8 à 1 Corinthiens 10, comme pour les dons spirituels. On parle beaucoup des dons spirituels, moins de la viande sacrifiée aux idoles. Paul ne répond pas de façon expéditive, mais prend son temps pour répondre à cette question, car elle va bien plus loin que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. Parce que derrière cette question, il y a une question bien plus importante. Jusqu'où va ma liberté en tant que chrétien ? Jusqu'où va ma liberté chrétienne ? Paul va aborder dans ses chapitres le problème du fondement de ma liberté en tant que chrétien. Parce que nous sommes libres en tant que chrétiens, affranchis par Christ. Ce que Paul dit lui-même dans une autre lettre, en Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je crois qu'on connaît tous ce verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais jusqu'où va cette liberté ? A-t-elle des limites ? Et si oui, lesquelles ? Quelles limites ? Ce que je vous propose de regarder à travers le début de la réponse de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8 de 1 Corinthiens, où nous allons voir que Paul répond à cette question. Y a-t-il des limites ? Si oui, lesquelles ? Donc je vous propose de lire ensemble 1 Corinthiens 8, du verset 1 au verset 13. On ne pourra pas lire toute la réponse de Paul à cette question, mais déjà le début de cette réponse au chapitre 8. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous. C'est entendu. Mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Au sujet de la question, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger de ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors leur conscience, qui est faible, se charge de culpabilité. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Suppose en effet que l'un d'eux te voit, toi, l'homme éclairé, assis à table dans un temple d'idoles. Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère pour lequel le Christ a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers des frères en blessant leur conscience, qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Alors avant d'aborder plus directement la question que les Corinthiens posent à Paul, l'apôtre va introduire un principe important dans les trois premiers versets et qui va lui permettre de donner sa réponse par la suite. Ce principe est le suivant. L'amour est plus important que la connaissance. L'amour est supérieur à la connaissance. Il est plus important d'aimer que de savoir. C'est un principe inamovible et intemporel. Il est plus important d'aimer que de savoir. Mais il faut faire attention à ne pas vouloir faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Paul ne dit pas que la connaissance n'est pas à rechercher. Paul ne dit pas que nous n'avons pas à connaître Dieu, à apprendre plus de lui, à apprendre mieux à connaître sa volonté. Nous avons besoin de connaître davantage Dieu. Dieu veut que nous ayons de la connaissance. Il veut que nous apprenions à mieux le connaître, à mieux connaître sa volonté. Et il faut le rappeler. Si nous négligeons la connaissance de Dieu, nous ne sommes pas sur le bon chemin. Absolument pas. Et pour connaître Dieu et Christ, nous avons besoin de nous plonger dans sa parole, plonger nos regards dans sa parole. Pour cela, il faut être régulier dans sa lecture, son étude, et dès le plus tôt possible. Nous devons apprendre à retourner vers la parole pour parfaire notre connaissance. Ce texte n'est en aucun cas une excuse pour notre fainéantise spirituelle ou pour notre manque flagrant de connaissance de la parole. Ce n'est pas une excuse pour cela. La connaissance que condamne Paul est marquée par trois aspects. Premier aspect, c'est une connaissance qui fait place à l'orgueil. Le danger pour celui qui croit avoir de la connaissance, c'est de croire que sa connaissance le place au-dessus des autres. Et donc, que personne ne peut rien lui dire, puisque moi, j'ai la connaissance. Moi, je sais. La connaissance se démontre aussi par son humilité et par sa capacité d'écoute, d'écouter ses frères et sœurs. Deuxième aspect, une connaissance qui croit tout savoir. Au verset 2, celui qui s'imagine avoir de la connaissance, une connaissance qui croit tout savoir. Pierre Desproges a dit, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Moins on en a, plus on l'étale. Et je trouve que c'est une bonne image de celui qui croit avoir de la connaissance, qui croit tout savoir. Personne ne sait tout, et encore moins dans le domaine spirituel. Parce que si on croit tout savoir sur Dieu, c'est qu'on a mis Dieu dans une boîte. Dieu ne se met pas dans une boîte. On ne saura jamais tout sur Dieu. Et cela prouve qu'on ne sait rien, en fait, sur Dieu. Dieu est immense, infini. On a encore parlé ce matin. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. On ne peut pas tout savoir sur lui. Et enfin, troisième aspect, qui est plus marqué dans cette lettre, dans ce chapitre en tout cas, une connaissance qui ne laisse pas la place à l'amour. Une connaissance qui ne laisse pas la place à l'amour. La connaissance seule n'est pas bénéfique. Le complément indispensable à la connaissance, c'est l'amour. La connaissance est essentielle. Encore une fois, je le répète, la connaissance est à rechercher. Elle est essentielle, mais elle n'est pas suffisante en tant que telle. Et comme le dit Paul, un peu plus loin en Corinthiens 13, verset 2, un verset aussi que nous connaissons bien, « Supposons que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et les conséquences d'une telle connaissance sont terribles. On reste inconnu de Dieu, contrairement à celui qui aime Dieu. Au verset 3, mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Autrement dit, celui qui n'aime pas Dieu, qui n'a que la connaissance, est inconnu de Dieu. La connaissance de Dieu ne remplace pas l'amour pour Dieu, qui seul permet d'être connu par lui. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais être inconnu par Dieu. J'espère que ce n'est pas le cas ce matin ici, d'avoir des gens qui connaissent bien leur Bible, qui sont là tous les dimanches matins depuis des années, mais qui ne sont inconnus de Dieu. Paul ne condamne pas la connaissance en elle-même, mais la connaissance qui ne s'appuie pas sur l'amour. Et ce principe est très important pour répondre à la question des Corinthiens. Peut-on manger de la viande sacrifiée aux idoles ? Parce que si on se base uniquement sur la connaissance, on va avoir une réponse froide et rapide. Rien ne l'interdit, ce n'est pas mauvais en soi. Alors je peux. Non, pour répondre à cette question, il ne suffit pas d'une réponse faite de connaissance, en exprimant si telle pratique est légitime ou pas. Mais il faut rechercher une réponse empreinte d'amour, en se posant la question de l'impact de nos actions, de nos agissements par rapport à nos frères et sœurs, comme on va le voir par la suite, comme Paul l'explique. Au verset 4, Paul revient sur cette grande question. Peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Alors pour bien comprendre cette question, il est important, je crois, de revenir au contexte particulier des Corinthiens à cette époque. Alors vous voyez là le dessin, c'est une peinture en bois représentant une scène de sacrifice qui a été découverte justement près de Corinthe vers 540 avant Jésus-Christ. Donc qui montre bien que ces pratiques avaient lieu à cette époque-là. Donc à cette époque-là, si vous avez vécu à Corinthe dans ces années-là, le meilleur endroit pour acheter un bon beefsteak, ben c'était la boucherie rattachée au temple. Les gens venaient dans ces temples païens pour apporter des animaux destinés à être sacrifiés à l'une ou l'autre divinité. Et ces bêtes sacrifiées étaient ce qu'il y avait de meilleur, bien soignées, bien grasses, élevées au grain, on dirait aujourd'hui, des bonnes bêtes, de la bonne viande. Ces sacrifices étaient censés purifier la viande des mauvais esprits, qu'il ne fallait surtout pas avaler. Et c'était aussi l'occasion de chercher à plaire, forcément, à l'une ou l'autre de ces divinités, avoir ces bonnes grâces. Mais une fois la bête égorgée pour le sacrifice, en l'honneur de cette fausse divinité, une partie donc de l'animal était brûlée, mais une autre partie était dépecée, une partie consommée par les prêtres, et une partie revendue dans le marché qui était attenant au temple, où on revendait donc cette viande. Et certains Corinthiens, qui avaient eu l'habitude de faire leur marché dans ces rues adjacentes au temple, depuis toujours, étaient devenus chrétiens. Et un problème de conscience se posait maintenant à eux. Peut-on manger cette viande ou pas ? Certains dans l'église de Corinthe pensaient qu'ils n'avaient plus le droit de consommer cette viande, parce qu'ils croyaient que d'une certaine manière, ils entraient en communion avec ces idoles en mangeant cette viande. Mais ce point de vue n'était pas partagé par tous. D'autres, Corinthiens, devenus eux aussi croyants, n'attachaient aucune importance à l'origine de leur beefsteak. Ils ne regardaient pas si c'était bio ou pas. Non, ce n'était pas important pour eux. Et cela choquait le premier groupe. Et ces différences d'opinion étaient devenues petit à petit une source de conflit dans l'Église. Et donc les Corinthiens s'adressent à leur champion, à Paul, pour qu'il puisse trancher. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas manger cette viande ? Alors, j'imagine facilement que ce n'est pas le genre de question que vous êtes posé quand vous êtes allé chercher votre beefsteak cette semaine au supermarché du coin. Vous n'êtes pas dit est-ce qu'on l'a sacrifié aux idoles ou pas. Vous demandez peut-être, mais pourquoi traiter d'une telle question aujourd'hui ? Vous demandez même peut-être ce qui a bien pu me passer par la tête pour traiter d'un tel sujet ce matin. C'est vrai qu'avec l'évolution de la société, cette question en elle-même n'a plus vraiment d'actualité. À la limite, on pourrait juste faire un lien avec la consommation de viande halal, de viande cachère. D'ailleurs, En 2012, il y a eu toute une affaire, parce qu'on disait que plusieurs fast-food comme McDo, Quick, utilisaient de la viande halal dans leurs burgers. Et en plus de ça, j'ai lu ça en travaillant un peu le sujet, une étude statistique publiée par le Figaro affirmait qu'à moins de ne pas consommer de viande, vous avez déjà mangé halal. Car toute la viande provenant d'une bête abattue rituellement n'est pas consommée pour des raisons culturelles et économiques. Les morceaux inutilisés sont redirigés dans le circuit de commercialisation classique, sans qu'aucune mention ne signale sa provenance. Donc au final, nous avons déjà tous mangé halal. À part si vous êtes végétarien. D'ailleurs, c'est quoi la solution? Plus aller au McDo? Ce serait peut-être dur pour une frange droite de la salle, même si j'y vais aussi moi-même. Hein. Je peux dire tous mes péchés ce matin. Mais devenir végétarien, alors là, ça sera encore plus compliqué. Mais ce type de question, je crois, posée par les Corinthiens, va plus loin que le simple fait de manger de la viande offerte à des idoles. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres de questions qui se sont posées aux chrétiens dans la génération passée et qui se posent encore aujourd'hui à nous-mêmes. Voilà quelques exemples. Il y a quelques années, les débats tournaient par exemple autour des questions suivantes. Est-ce qu'on peut faire des achats un dimanche? Est-ce que les femmes peuvent se maquiller? Est-ce qu'on peut mettre une batterie dans l'église? Désolé Yves, c'est tombé sur toi. Aujourd'hui, encore des questions se posent auxquelles nous n'aurons pas tous forcément la même réponse. Par exemple, vous êtes marié lors d'une soirée quelconque, un bel homme ou une jolie fille vous invite à danser. Acceptez-vous? La finale de la Coupe du Monde de rugby tombe un dimanche matin. Que faites-vous? Une amie vous dit qu'un traitement homéopathique a super bien marché pour son fils pour tel problème. Le donnez-vous à votre enfant. Un soir après le boulot, des collègues vous invitent en boîte. Y allez-vous? Vous êtes en train d'évangéliser dans les rues de Grenoble, pendant Noël en fait, et vous rencontrez un jeune qui vous offre une bière pour discuter davantage. Vous êtes accompagné par un jeune converti qui sort difficilement de l'alcoolisme. Qu'est-ce que vous faites? Tes copains te proposent de jouer avec eux à un tout nouveau jeu de rôle d'Heroic Fantasy. Qu'est-ce que tu leur réponds? Il y en aurait plein d'autres encore. On peut multiplier la liste à l'infini. Est-ce que je peux jouer à un jeu avec des armes? Est-ce qu'on peut lire Harry Potter? Quelle est la taille minimum pour une jupe? Il y a plein de questions qui peuvent s'adresser à nous. Est-ce que la question posée par les Corinthiens à Paul est plus concrète pour vous maintenant? Quel doit être mon comportement vis-à-vis de toutes ces questions? On peut ou on ne peut pas? Comme le dit John MacArthur en commentant ce passage, ce sont des questions qui sont débattues encore aujourd'hui parce que la Bible ne dit rien de précis à ce propos. Il y a beaucoup de choses que la Bible défend de faire et beaucoup d'autres choses qu'elle recommande. Mais au milieu, entre les deux, dans une zone grisée, il y a plusieurs choses dont elle ne parle pas précisément. Et en répondant aux Corinthiens, Paul va nous montrer que l'une des clés principales pour se décider sur toutes ces questions qui sont dans la zone grise, où la Bible ne parle pas forcément précisément de ces questions-là, est en rapport avec l'amour fraternel, est en rapport avec nos relations avec nos frères et sœurs qui nous entourent. Dans un premier temps, Paul va répondre aux Corinthiens en leur expliquant que le problème ne vient pas de l'idole en elle-même, du verset 4 au verset 7. Pourquoi? Pour deux raisons en particulier. D'abord, tout simplement, parce qu'il n'existe aucune idole. C'est ce que Paul affirme au verset 4. Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Aucune idole, aucune divinité auxquelles ces sacrifices sont rendus n'est réelle et vivante. Seul Dieu est réel et vivant. Les idoles sont du vent. Elles n'ont aucune valeur et ne sont d'aucun secours. En conséquence, la viande des animaux sacrifiés aux fausses divinités n'est pas contaminée. Il ne se passe rien. Paul complète sa réponse à propos de ces idoles au verset 5 en affirmant qu'il existe bien des êtres spirituels qui sont cachés derrière ce système idolâtre. Il revient un peu plus loin dans 1 Corinthiens 10, versets 19 à 20, où il dit « Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière ou que l'idole ait quelque réalité ? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. » Ces êtres spirituels sont puissants, mais le fossé qui existe entre nous et Dieu est aussi grand que le fossé qui existe entre tous ces êtres spirituels et Dieu. Il ne faut pas s'imaginer qu'elles sont plus proches de Dieu. Non. Paul l'affirme avec force au verset 6 où il dit « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Charlie l'a souligné ce matin, et toutes les prières qu'on a faites par rapport à la grandeur, la majesté de Dieu l'ont souligné. Rien n'est comparable à Dieu. Rien ni personne n'est à la hauteur de Dieu et de Christ. Toutes ces créatures sont justement des créatures, et lui est le créateur. Elles sont limitées, et lui est infini. Toutes ces êtres spirituels n'ont pas la même nature que Dieu. Dieu est sans égal. Certains de ces êtres, donc de ces idoles, sont complètement factices. D'autres, par contre, sont des manifestations de démons. Mais aucun, je veux bien souligner, aucun n'est à la hauteur de Dieu. Il y a un fossé entre Dieu et tous ces êtres spirituels. Ces affirmations peuvent sembler évidentes aujourd'hui, mais elles n'étaient pas à l'époque. Verset 7, tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Cela nous montre que dans l'Église de Corinthe au 1er siècle, certaines bases de la vie chrétienne, que tout chrétien aurait dû savoir, n'étaient pas sues. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Permettez-moi d'en douter. Je crois qu'encore aujourd'hui, il y a des choses basiques de la vie chrétienne qui sont inconnues par certains chrétiens. Et c'est malheureux. Tout le monde n'est pas forcément capable de saisir ces choses à cause d'un manque de connaissances, de l'immaturité, d'un passé trouble peut-être. Le mot « faible » qui est employé dans ce texte ne fait pas forcément référence à une faiblesse spirituelle, mais décrit plutôt l'attitude de ceux qui ont des scrupules excessifs vis-à-vis des domaines neutres, moralement neutres. Et à cause de ces différents facteurs, leur conscience est fragilisée face à cette problématique. Et ils avaient un sentiment de culpabilité. Or, Romains 14, verset 23, affirme de façon catégorique que tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Est péché. Certaines choses ou situations sont péchées de manière flagrante. D'autres sont un péché parce que cela ne vient pas d'une conviction de foi, parce que ça touche à notre conviction personnelle, à notre conscience personnelle. Après avoir vérifié qu'en faisant telle ou telle chose, vous ne désobéissez pas à un commandement de Dieu, que cela ne vous sépare pas de Dieu, ne l'attriste pas, et que cette question est donc neutre, alors il faut veiller à ce que notre conscience nous dicte et faire selon notre connaissance, selon notre conviction. Si tu considères que tu ne peux pas manger de la viande halal, n'en mange pas, deviens végétarien alors peut-être. Si tu considères qu'il ne faut jamais boire une goule d'alcool, n'en bois pas. Si tu considères qu'il ne faut pas prendre un traitement homéopathique, n'en prends pas. C'est aussi simple que ça. Paul poursuit sa réflexion par rapport à cette question des Corinthiens en affirmant que le problème n'était pas lié à l'idole, que le problème n'est pas non plus lié à la viande en elle-même sacrifiée. Les Grecs et les Romains donc croyaient en l'existence de plusieurs esprits mauvais, et ces esprits, dans leur imagination, s'attachaient aux mets comestibles, à la viande notamment, et pouvaient donc s'introduire dans la personne quand ils mangeaient tel ou tel morceau de viande. Le sacrifice, le rôle du sacrifice, un des rôles, était aussi justement quelque part d'assainir cette viande, d'enlever tous les esprits démoniaques qui pouvaient être dedans, selon leur pensée, leur imagination à ce moment-là. Paul explique aux Corinthiens que manger cette viande ou pas n'était pas un problème en soi, car elle ne rendait pas impure. Ces esprits mauvais n'infectaient pas réellement les aliments. Les aliments ont une valeur spirituelle neutre, on le sait bien. Jésus l'a souligné en Marc 7, verset 15. « Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. » Il ne s'agit donc pas d'un problème sur la nature même de la viande, et qu'elle soit offerte ou non à une idole. Manger cette viande n'a aucun impact sur notre relation avec Dieu. C'est spirituellement neutre et sans aucune répercussion ou conséquence, tant sur le plan physique que spirituel, comme beaucoup d'autres choses. Peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles? Paul a expliqué qu'il n'y a aucun problème avec l'idole. Il n'y a aucun problème avec la viande. Donc, on s'attendra à une réponse, pas de souci, on peut manger cette viande, pas de problème. Et c'est là qu'un petit mot fait son apparition au verset 9, au début du verset 9. Toutefois. Paul va maintenant expliquer quel est le vrai problème derrière cette question-là, qu'on a déjà un peu introduit. Le problème n'est pas lié à l'idole ou à la viande, mais à ton frère en Christ ou à ta sœur en Christ qui est à côté de toi et qui est témoin de tes agissements. Jusqu'où va ma liberté en tant que chrétien ? Sur quel fondement je peux faire telle ou telle chose qui est neutre en tant que telle ? L'un de ces fondements est lié au regard de ton frère ou de ta sœur qui est à côté de toi. Le problème est bien plus profond que le fait de manger ou non cette viande, mais dans l'occasion de chute que je peux être pour mon frère ou ma sœur. Et avant de manger cette viande, avant de faire telle ou telle chose qui est neutre d'aspect, je dois penser à la conscience de celui qui m'accompagne, à la conscience du frère et de la sœur en Christ qui est à côté de moi. Je me dois de me poser la question si cela ne risque pas de faire tomber mon frère ou ma sœur. Manon Roland, une figure de la Révolution française, a dit juste avant sa mort, à la guillotine le 8 novembre 1793, « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom. Ô liberté, que de crimes on commet dans ton nom. » Je crois que c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. Parfois, à cause d'une mauvaise utilisation de notre liberté chrétienne, on commet de vrais crimes, en étant une occasion de chute pour ceux qui sont à côté de nous. Et les conséquences d'une mauvaise utilisation de notre liberté sont graves. Graves pour le faible, verset 11. « Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère pour lequel le Christ a donné sa vie. » Les conséquences pour le faible, c'est sa perte. Alors, pas la perte du salut, qui ne dépend pas de lui, mais de Dieu. C'est plutôt l'idée de tomber dans le péché. Et dans ce cas-là, le chrétien mal affermi risquait de tomber dans le péché, de retourner à l'idolâtrie, à son idolâtrie passée. Une signation qui n'était pas un péché pour toi peut devenir une occasion de chute pour le frère ou la sœur qui est à côté de toi, le faire tomber dans le péché ou le blesser. Et Paul souligne la gravité de cela en évoquant le fait que Christ a donné sa vie pour ce frère ou cette sœur. Le contraste est saisissant, je trouve. Christ a renoncé à sa propre vie pour ce frère. Et les Corinthiens n'étaient pas capables de refuser et de renoncer à un repas pour ce frère. Pour le frère pour qui Christ a renoncé à sa vie. Pas capable de refuser de renoncer à un repas. Mais elles sont graves aussi pour le fort. Verset 12. Si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. Les conséquences pour le fort, c'est la même chose en fait. C'est la chute, c'est le péché. Il tombe dans le péché. Une situation qui n'est pas un péché pour moi au départ, pour ce chrétien, car il agissait dans un domaine neutre, en toute bonne conscience, peut devenir une occasion de péché pour lui-même à cause du fait qu'il blesse son frère ou sa sœur. Et là encore, Paul souligne la gravité de cette situation en utilisant mal ta liberté. Tu ne te contentes pas de pécher contre ton frère en Christ. Tu pèches contre Christ lui-même. Le fait de conduire un frère ou une sœur en Christ à pécher n'est pas qu'une offense que tu fais vis-à-vis de lui. C'est une offense que tu fais vis-à-vis de Christ. En faisant mal à ton frère, tu fais mal à Christ. Paul conclut la première partie de sa réponse aux Corinthiens en affirmant qu'il préfère renoncer à sa liberté plutôt que d'être une occasion de chute. Verset 13. C'est pourquoi si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Parce que même si Paul avait la connaissance pour affirmer que cette situation-là était totalement neutre et sans effet, et qu'il pouvait le faire de bonne conscience, il préfère s'appuyer sur l'amour pour ne pas être une occasion de chute pour son frère ou sa sœur en Christ. Comme l'écrit Richard Doulière, qu'on connaît bien ici, si une chose choque le frère, si elle risque de le faire tomber, fût-ce seulement si elle l'attriste, l'amour prend le relais de la liberté en la gommant. Nous devons sans cesse nous rappeler que nous ne vivons pas sur une île déserte, où nos gestes n'auraient que des influences sur nous-mêmes, des conséquences sur nous-mêmes, mais nous devons veiller à ceux qui sont à nos côtés. Nous ne devons pas prendre en compte uniquement les conséquences que peuvent avoir nos gestes sur nous-mêmes, mais les effets qu'elles peuvent entraîner chez les autres. La vie spirituelle de mon frère ou de ma sœur est prioritaire sur ma liberté. C'est le grand message de Paul ici. Et le seul comportement qui doit être privilégié en tant que chrétien dans ma vie, c'est celui qui encourage mon frère dans sa piété personnelle, dans sa marche avec le Seigneur. Et jamais celui qui peut provoquer sa chute. Il ne s'agit pas de renoncer à cette liberté à cause de critiques purement légalistes ou sans aucune objectivité, mais plutôt d'adapter ma conduite pour la conformer à mon frère ou à ma sœur qui est peut-être plus faible que moi dans tel ou tel domaine, où il a une conscience ultra sensible qui le condamne facilement. Pratiquement, qu'est-ce que cela signifie? Voilà quelques exemples. Je vous laisserai imaginer les autres. Dans le rapport homme-femme, en tant que femme, je me souviendrai que l'homme a souvent une grande faiblesse au niveau de sa vue. Je ferai donc attention à ce que mon habillement ne soit pas une occasion de chute pour lui. En tant qu'homme, je me souviendrai que la femme peut facilement se projeter dans des spéculations amoureuses. Je me souviendrai de cela et je ferai donc attention à ma manière de me comporter, de l'aborder, de ne laisser aucun quiproquo possible dans mes gestes, mes paroles, ma manière d'être. Je ferai aussi attention au frère à côté de moi qui peut-être qui a eu un problème dans le passé où il était enchaîné, comme par exemple l'alcool, où il était dépendant. Je ferai aussi attention de ne pas vouloir mettre en avant une supposée connaissance en affirmant de façon péremptoire que c'est possible de faire ça et en me moquant ou en dénigrant pour celui pour qui ça pose un problème. Je ferai attention d'être à l'écoute de mon frère ou de ma sœur qui est à côté de moi pour ne pas être une occasion de chute pour lui ou pour elle. En conclusion, nous sommes libres, libres à travers le sang de Christ, mais notre liberté a des limites. On ne peut pas se contenter de dire « parce que la Bible ne l'interdit pas, alors je peux le faire ». Non, ce n'est pas possible de dire ça. Notre liberté est limitée par certains principes plus importants. L'un de ces principes, et ce n'est pas le seul, Paul en donne d'autres par la suite, est celui de l'amour fraternel dans le respect de la conscience de notre frère. Paul en cite d'autres encore par la suite dans sa réponse, mais c'est une des clés principales, l'amour fraternel, le respect pour notre frère et notre sœur qui est à côté de nous. Nelson Mandela, en faisant quelques recherches, a eu cette phrase. Nelson Mandela n'est absolument pas chrétien, on sait tout ce qu'il a vécu, mais j'ai trouvé forte cette phrase. Il dit « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Et j'ai vu comme une comparaison avec notre propre vie. Nous avons été libérés des chaînes du péché, libérés du péché. Aujourd'hui, nous devons vivre notre liberté dans le respect de la liberté de conscience face au péché de nos frères et sœurs. Avoir cette attitude non seulement de savoir que nous sommes libres, mais que nous devons aussi avoir du respect et de l'amour pour notre frère et sœur, pour qu'il vive sa liberté aussi de conscience face au péché. Que notre Seigneur nous aide à avoir suffisamment de discernement, suffisamment d'amour pour appliquer ce premier principe dans notre liberté tous les jours. Amen.